Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Anne au 39-21. Anne, avec qui nous avons échangé hier soir. Et le temps nous a interrompu, Anne, hier soir. Donc vous étiez hier soir en train de me raconter comment vous alliez après toutes ces péripéties, le fait d'avoir quitté votre maison en catastrophe après avoir été agressé par ses voisins, avec un avocat qui n'avait pas tout à fait fait son travail, qui vous avait dit qu'il gardait les clés de votre appartement, en tout cas de votre petite maison, qui devait les rendre à la propriétaire qui vous réclamait 6 000 euros de loyer non payé. Donc on faisait un peu le bilan de tout ça, Anne. D'abord, bonsoir, comment allez-vous ?
Bonsoir Olivier, bonsoir, oui. Oui, ça va, je tiens la route, oui. Oui, oui, je pensais à vous, je me disais, vous avez beaucoup de charisme.
Ah, vous êtes gentille.
Oui, et que c'est agréable le soir d'aller se coucher, de vous écouter un peu, c'est rassurant comme voix.
Bah, écoutez, tant mieux, déjà, si ça vous apaise dans tous vos problèmes.
Oui.
Alors, on se disait hier soir, Anne, que cet avocat, il n'avait pas tout à fait son travail, puisqu'il devait rendre les clés de cet appartement.
Oui, ce que j'ai pas compris, c'est quand je suis partie, bon, le policier de chef de police a été très gentil, très compatible avec moi, beaucoup de compassion pour moi, et il m'a dit, parce qu'il y a eu des propos racistes qui ont été, tu resteras pas ici, c'est pas ton pays, il faut retourner chez toi.
Ah, ça, vous ne m'avez pas dit ça, il y a eu des propos comme ça,
non,
de tenir.
Oui, il y a eu tout ça, et dès que je suis arrivée, ils m'ont fait comprendre que c'était pas ma place là, et en plus c'est des gens qui me parlent, c'était très complexe, qui me parlaient des Antilles, de la Martinique, tout, et en même temps, dès qu'ils étaient, mais c'était quelqu'un qui buvait en fait, cette dame-là, et dès qu'elle était mal, elle me sortait des choses comme ça, et le jour que j'étais frappée, sa fille qui m'a frappée, pendant qu'elle me frappait, elle me disait, de toute façon je travaille au tribunal, j'ai rien à foutre, tu peux aller porter plainte, et elle prenait son élan et me balançait des coups. Elle était en basket assez forte et puis son compagnon aussi prenait la relève et la voisine était sous la terrasse en train de les encourager jusqu'à ce que je tombe dans les pommes, quoi.
Mais la voisine les encourageait ?
Oui, c'était la maman de la fille et puis son compagnon,
Et tout ça, c'était dans quelle ville, Anne ?
À Saint-Mandrier-sur-Mer.
D'accord, c'est où ça exactement ?
C'est à Toulon, la presqu'île qui est en face, oui,
D'accord.
Oui. Ma collègue infirmière qui me freinait me disait de toute façon aucune femme antillaise ni arabe ne reste dans ce coin-là. C'était vraiment dès le départ on me parlait comme ça. Mais j'ai été mariée là, j'ai vécu là, j'ai pas connu ça en fait. Et là je suis revenue, je suis séparée de mon mari et c'est là que j'ai connu
ce racisme, vous pouvez le dire, c'est comme ça que ça s'appelle.
Oui, c'est plusieurs fois j'ai côtoyé des gens qui me disaient qu'est-ce que vous faites là et tout. Moi, je comprends. Moi, de toute façon, quand je suis arrivée, même le propriétaire, il m'a dit pendant qu'il me louait l'appartement, il me disait les gens qui sont en dessous font beaucoup de bruit, elles touchent à l'alcool, elle est régulièrement alcoolisée. Et au fond de moi, je me disais mais pourquoi il me louait l'appartement en fait, sachant que je savais que j'allais vivre. Et après, la dame qui est partie de là, c'est pareil, elle m'a vendu tous ses meubles. Et après, quand elle me rencontrait dans la rue, elle me disait « Oh, tu vas voir, tu vas vivre l'enfer là ». J'ai dit « Mais les gens sont méchants, en fait, quand, au lieu de me dire oh, une femme seule qui vient, il faut... » Et après, les gens m'ont dit « Ouais, il fallait pas... » C'était...
Il vous disait « Fallait pas venir ici », c'est ça qu'il vous disait ?
Voilà, il fallait pas après. Mais quand j'arrivais au départ, bon, il était prêt à me louer et tout, et puis il me disait ce qui se passait dans son, c'est, disons, une villa avec une, comment ça s'appelle, une campagne, si vous voulez.
Oui.
Il habitait à côté, en face ils ont construit une villa, il loue en haut, moi j'étais en bas, et en face il y avait la propriété de sa mère, immense, qui n'était pas vendu, et après ils ont vendu ça pour des Anglais, et ils ont ouvert un chantier immense, sans mur privatif, sans rien, moi j'étais au milieu, entre la dame qui buvait, moi en dessous, et le chantier qui s'est ouvert comme ça, je ne pouvais plus sortir. Non, mais c'était affolant. Affolant de mettre un être humain dans... J'ai un petit chien, là, Sapso, il me menaçait, le propriétaire, de le pendre.
Le propriétaire?
Oui, il me disait, si je l'attrape, je le pends, il me disait...
Mais qu'est-ce que c'est que ce propriétaire, Anne, en fait? Il vous loue l'appartement, il vous menace après?
Oui, il me menaçait, et puis ils m'ont loué le parking, compris dans mon bail, et puis j'ai jamais pu prendre la place de parking, c'était sa voiture qui était là, sa remorque, il bloquait devant ma porte avec sa remorque, le soir je pouvais tomber, avec quand j'entrais, si je faisais pas attention, j'aurais pu me casser la jambe ou n'importe quoi, et quand les voisins autour m'ont dit, quand j'ai dit qu'il me harcelait et tout, j'ai porté plainte, tout ça. Ils m'ont dit, mais ce monsieur, il tue les chats, il est chasseur, et on l'a assisté à mettre des pièges pour les chats sous sa maison et devant le jardin où vous êtes, et prendre les chats, les dans les pièges avec sa femme. J'ai dit, vous dites ça, et vous avez jamais porté plainte, rien du tout, et vous le répétez dans tout Saint-Mandrier, ils ont jamais, c'était tout à fait normal tout ce qui se passait. C'était...
Mais est-ce qu'il y avait d'autres Antillais à Saint-Mandrier?
Oh non, disons les Antillais qui viennent là, c'est comme mon ex qui était dans la marine nationale et puis qui sont avec leurs femmes et puis après on part, on est muté ailleurs.
D'accord.
C'est pour ça que moi j'ai vécu là et après je suis partie et puis j'ai pris ma retraite dans le coin parce que bon c'est assez joli, c'est un peu comme Porquerolles en face et tout, c'est un peu un style Antillais.
Mais donc, les gens sont racistes
Oui. C'est sûr là-bas. Qu'on m'a laissé. Oui. On m'a dit, il faut pas. Ça vaut beaucoup le Front National. Qu'est-ce que je faisais là? C'est vrai qu'à l'époque où je suis partie vivre à Toulon, quand je me suis mariée à une vingtaine d'années, c'était le Front National qui avait le Toulon. C'était dans les rues, on ne sortait pas. Ça s'appelait Chicago.
Ah oui, je me rappelle que ça s'appelait Chicago. Oui.
Oui, mais même les choses ont évolué et tout. Et puis moi, dans ma tête, je ne suis pas. Moi, je suis antillaise. Quand je prends l'avion pour aller aux Antilles, je suis des fois la seule antillaise dans l'avion. Il n'y a que des métropolitains. Moi, j'ai passé ce cap-là. Moi,
bah,
je
oui, ne m'arrête oui,
pas.
Oui,
voilà, oui. Moi, j'évolue. On évolue dans la vie. Hein. On ne retourne pas sur ce qui est sous le passé.
Ah, oh, mais oui. Mon meilleur ami, vous savez, mon meilleur ami est antillais. Et jamais nous ne parlons de ce type de choses, finalement, parce que ça n'existe pas dans nos têtes respectives, vous voyez, c'est...
Oui, voilà, on n'a pas de pensée comme ça,
non, moi, de ma famille.
On est beaucoup métissés, il y a beaucoup de... Si je suis revenue en Normandie, mon frère est marié avec une Normande, j'ai 4 petits neveux, nièces métisses, moi on part ensemble en vacances, moi je n'ai pas de couleur de j'étais aide-soignante, moi je soignais le noir comme le blanc ou le chinois, moi j'ai rien à fiche, vraiment c'est une question d'ignorance.
Mais vous savez, je plains les gens qui voient la différence de peau comme ça, ou la différence culturelle, je les plains vraiment.
Des fois c'est tellement innocent que je me rappelle que quand j'étais en Bretagne, j'avais la fille de ma sœur avec moi, j'allais la chercher à l'école. Quand je suis entrée dans le bus, les enfants, ils m'ont dit « Une maman noire !» Une maman noire. Et tous les enfants me disaient ça, mais moi, pourtant je suis métissée, mais je disais, mais c'est pas possible que j'étais en train de rue. Et j'ai dit, mais oui, il y a des mamans noires, des mamans blanches. Mais la dernière fois encore, à Saint-Mandrier même, j'étais dans un café, il y avait un gamin qui, parce que moi j'étais auxiliaire de puéricultrice aussi, j'étais vers lui, je jouais avec lui, un enfant de 3 ans à peu près. Hein. Et tout d'un coup, je mettais la main dessus, comme ça, il me prend ma main, il regarde et puis il me dit, mais ta main, mais t'es sale.
Ça, ce sont les enfants.
Oui, mais il m'a fait rire et sous le coup, j'ai pris ma main, j'ai dit, ah bon, on m'a jamais dit ça. Il dit, attends, tu vas voir. Et j'ai pris son bras et j'ai frotté ma main sur son bras et puis j'ai dit, regarde, tu es sale maintenant. Il me fait non. Mais tu vois, je suis pas sale, je suis marron, je lui ai dit. Et le papa et la maman, ils étaient là, ils étaient écroulés. Mais c'est innocent, vous savez. Pour
exactement.
Moi, les gens, je pense qu'ils sont racistes des fois. C'est une espèce d'ignorance, des fois.
La peur l'ignorance, en fait, comme vous le dites.
Oui, il y a beaucoup
quand on,
d'ignorance.
Quand on ne connaît pas, on a peur de ce qu'on ne connaît pas.
Mais vous savez que même à, j'ai vécu à La Réunion, il y a des gens qui habitent dans les hauts, qui sont blancs, qui ont des yeux bleus.
Oui,
mais
oui.
Quand vous montrez, vous êtes CAF, les noirs, on les appelle des CAF. Ah ben, j'étais avec ma belle-sœur à La Réunion, elle me disait, ben, tu sais qu'à l'époque, fallait pas qu'un noir comme ça fasse un petit avec un blanc aux yeux bleus dans les hauts, hein. Ça les bardait aussi. Hein.
Ah oui, oui, oui.
Ah ben oui, c'est, y a ça. Et puis
comme
y a
quoi
aussi
ça,
le,
ça a toujours existé, hein, ça, en fait, le racisme,
oui,
vous voyez.
Oui, oui, quand vous lisez les livres de, d'Aimé Césaire, il dit on a tous une goutte de sang raciste dans le corps. Hein.
Oui,
mais moi, je veux bien croire qu'on soit raciste avec quelqu'un au niveau de la culture. On dit j'aime pas ce qu'il fait comme nourriture, j'aime pas les odeurs et tout. Mais pour être raciste entre être humain même, entre race, parce qu'on est juif, parce qu'on est noir, moi, je trouve ça abominable. Parce que quand on a un cerveau, on est intelligent, ben, moi je trouve que ça va beaucoup plus loin.
Vous avez raison. Et Aimé Césaire, il avait raison lorsqu'il disait qu'il y a une goutte de sang raciste en chacun de nous. Voyez en ce moment le débat qui anime beaucoup la société française. Hein, et dans ce débat-là, on ne parle pas du racisme entre toutes les races. Les Arabes avec les Noirs entre ethnies, vous savez, les Marocains avec les Algériens. Il y a plein de communautés qui se détestent et qui tous les jours commettre des actes racistes. Et ça, on n'en parle pas. Et vous avez raison de citer Aimé Césaire parce que il y a une goutte de racisme dans chacun de nous et à voir si elle se développe ou non.
Disons, le sens propre du mot racine n'a jamais été pris en compte vraiment. Il faut savoir vraiment la racine de ce mot-là. Si ça peut venir de la méchanceté, c'est très faible le mot racine.
Mais c'est la peur ou la non-acceptation de la différence. Vous voyez, j'évoque
une espèce de maladie, moi je ne sais pas qu'a pas été.
Non, je pense que c'est la différence. C'est la non-acceptation de la différence. Quand j'évoque le racisme, le racisme que j'évoque là et qu'on n'évoque jamais en France, hein, on n'en parle pas parce que c'est tabou, de communautés qui se détestent, qui se font la guerre, mais là, celui-là, on n'en parle jamais, en fait. Et pourtant, il ressemble exactement au même racisme qui anime aujourd'hui le débat en France entre blancs et noirs. Mais...
Oui.
Le racisme qu'il y a entre Noirs, le racisme qu'il y a entre Maghrébins, encore une fois, c'est quelque chose dont on ne parle pas et qui pourtant est aussi présent de ce dont on parle aujourd'hui dans le débat en France. Mais bon.
On tue encore des Juifs, les Juifs, la dame qui a été assassinée il n'y a pas longtemps à Paris.
Ouais.
Mais c'est affolant,
c'est affreux.
Et moi, je dis que ça reste au niveau de l'être humain. Moi, je dépasse le mot raciste. Je me dis un être humain comme les policiers, ils disent qu'il y a des bavures. Mais moi, je dis que c'est pas parce que c'est un policier qui l'a tué. C'est un être humain qui tue un être humain. Il est policier, d'accord. Mais avant d'être policier, c'est un être humain. Il voit bien qu'il a quelqu'un d'autre en face
Écoutez,
de lui, qu'il a un fond méchant.
Je
n'a rien à voir avec un policier.
Exactement. Je voyais hier des images. Alors, je ne sais pas sur quelle chaîne c'était, mais je voyais les images d'un policier qui arrête un jeune gars dans le 93, un jeune Africain, un policier hein, en chemise blanche, et qui lui met des coups, mais d'une violence. Vous avez vu ça? Comment on peut faire ça, en fait?
Mais moi, je ne dis pas parce qu'il est policier, c'est parce qu'il est méchant.
Il est méchant,
tout.
Il est méchant.
Il est malade, et la dernière fois...
Il a un truc qui
ne
va pas, vous avez raison.
Ah ben oui, moi, c'est pour moi, c'est la dame, il y a une émission où vous êtes passé avec une dame qui disait que... Voilà une dame arabe qui est mariée avec son mari. Le monsieur est rentré, il a tué son mari devant les enfants.
Oui,
ça.
Oui.
Ce monsieur-là, c'est un malade, un criminel qui est dans la nature, mais un malade qui devait être enfermé. Il ne peut pas être normal dans sa tête et puis tuer les gens comme ça. Même les chasseurs n'ont pas. Ils ont une race à tuer et une autre. Bah, non, c'est, pour moi, ce sont des gens. Je veux bien croire que les policiers, il y a des bavures en police, mais un policier qui tue, c'est pas un policier. On ne peut pas donner à ce type d'homme le nom de policier. C'est un être humain qui est malade.
Et même pour même résumer les choses, Anne, vous qui êtes des Antilles,
oui.
Regardez ce qui se passe entre les Antillais et les Réunionnais.
Oui, hein? surtout les Guadeloupéens.
Les Guadeloupéens, voilà.
Les Réunionnais s'entendent très bien.
Non, oui, c'est
moi,
ça. Pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. Les Antillais et les Guadeloupéens ne peuvent pas se voir.
Oui, mais en Martinique même, oui. Les gens qui ils sont très sectaires. Même j'ai vécu en Bretagne aussi. Les gens en Bretagne, ils ont... Vous savez, j'ai vécu un moment, j'étais amoureuse de Breton, mais on devait vivre ensemble et tout. Mais quand il a fallu vraiment couturer notre union, sa mère lui a dit qu'elle ne me fasse pas un gamin. Et c'était la pire des choses que j'avais entendues.
Ouais,
je me suis
ouais,
dit, mon
ouais.
Dieu, comment on peut dire. Et elle m'a même sorti que son ex-belle-fille était normande et qu'elle tolérait que son fils se marie avec une fille de son village. Et c'était bien pour elle, mais même pas une normande aller voir une antillaise.
C'est fou, hein. C'est fou.
Mais moi ça relève de l'ignorance.
Exactement.
Moi, c'est de l'ignorance.
Exactement.
C'est
de l'ignorance qui pousse à la peur et la peur se transforme en méchanceté, en fait.
Vous savez, quand je suis arrivée, j'ai vécu un peu aux Antilles. Je travaillais en crèche. J'avais une collègue qui n'était pas gentille du tout. C'était une Antillaise. Et elle était très noire de peau. Mais je vous assure, comme elle n'était pas gentille avec moi, quand j'étais dans un couloir de loin, je la voyais. Vous savez, elle me faisait peur. J'entrais le soir chez moi, je dormais, mais je la revoyais. C'était du fait qu'elle avait la peau foncée, puis qu'elle était pas, elle était méchante, elle m'avait rejetée.
Oui.
Mais je faisais des cauchemars. Alors moi, j'imagine que c'est une espèce de peur, comme vous dites, qu'on se crée avec certaines choses, je sais pas comment expliquer ça, mais moi j'en discutais avec des amis et mon frère l'autre jour, je lui disais, mais le racisme, le mot est faible, il faut aller fouiller encore dans ce mot, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer je vous dis que j'ai quand même des neveux qui sont dans la police et tout, je vois mal mes neveux se comporter comme ces gens-là se comportent. J'ai vu le film Mississippi Burning, quand j'ai vu ça, mais je suis partie comme une folle de la salle du cinéma en pleurant. Quand je voyais qu'on mettait les Noirs sur les tables, on leur coupait les
trucs.
C'est un film qui était affreux. Ma mère me disait, même pendant l'esclavage, on attachait un Noir dans une cage avec les mains par terre, avec une corde, on lui balançait à manger comme un porc. Et
oui.
Au bout de 6 mois, on le relâchait. Il marchait pareil, à 4 pattes. Ma mère m'a raconté ça, mais avec respect. Elle n'a jamais dit « ouais, c'était des ci, des ça, rien ». Elle disait « voilà ce qu'on a vécu ». Et elle parlait des béquets aussi, et de tout ça. L'amiral Robert, après. Mais j'ai jamais entendu mes parents juger. Elle dit « il y a eu de la misère, on a souffert sur Terre ». Mais on n'a pas de haine dans notre cœur.
Quand on n'a pas de haine dans le cœur, et ça, je pense, vous savez que c'est dès le début.
J'ai mal d'entendre quand je suis arrivée pour faire des études, j'ai commencé à faire des stages en France. On me disait, ne me touchez pas, et pourtant, et même des fois, ma patronne, elle me disait, je vais vous embaucher parce que vous êtes métisse, vous serez noire, je vous aurais dit ou des choses comme ça. Je comprends qu'il y a des gens qui se suicident, qui ça vous poursuit dans la tête pendant des nuits, mais c'est pas possible. Mais il y a tellement de souffrance sur Terre que si c'est pour chercher chaque. Choses comme ça, quand les êtres humains se déchirent, se font mal comme ça, moi je ne comprends pas. Moi, je dis que ce monde n'est pas mon monde, c'est pas possible. Il y a trop les gens sont trop méchants entre eux.
Alors, ils sont pas tous comme ça, hein, n'oubliez pas.
Hein. Non, heureusement qu'il y a de bonnes personnes. Moi, je vois mes parents, mon père et ma mère, c'était des gens que je regrette tous les jours, qui nous ont appris que de bonnes choses, que le partage, que l'amour, que tout le temps j'entendais, tu dis bonjour, tu vas porter ça pour le voisin, tu vas voir s'il n'est pas malade, c'était que ça, tout le temps. Mon père, il tue un porc, et bien, il ajoute un morceau par-dessus en disant ça ne me rendra pas plus. Et jusqu'à présent, je continue, mes voisins ne s'occupent pas de moi, mais comme mon frère, il a un jardin, il m'emmène une jatte de cerises, bien, je sonne à leur porte, je leur porte un bol de cerises, je ne vais pas laisser les cerises pourrir, et je me dis, c'est pas l'État qui va nous aider à vivre mieux sur Terre, ils attendent tout que l'État. Mais nous aussi, on a des efforts à faire. On a des efforts à faire entre êtres humains. Quand on voit le coronavirus, la COVID-19 sur nous, et que les gens continuent à être méchants comme ça, et ils font rien pour... Non, mais moi, je dis que c'est notre monde nous appartient, c'est à nous de semer l'amour. On n'est pas là à faire à casser tous les radars, à faire toute pleine méchanceté, pleine violence comme ça. Moi c'est affolant. Moi, j'en peux plus là, dans ce monde. Hein. Moi, je me suis dit, il y a trop de souffrance dans le monde. Les gens sont trop méchants.
Et vous êtes où là maintenant là? Vous êtes atterri dans...
Je suis en Normandie.
Ah, vous êtes en Normandie maintenant?
Oui.
Donc
oui,
dans la famille ou
Dans ma famille, mais j'ai pris mon appartement. Mais j'ai des neveux que j'ai vus naître parce que j'ai pas pu. J'ai eu des fausses couches et tout. Mais je me suis attachée beaucoup à mes neveux. Et puis je me suis donné un but pour m'occuper d'eux. J'en ai en Martinique, j'en ai un peu partout parce qu'on était nombreux. On est nombreux, une grande famille.
Et vous voilà, vous plaisez en Normandie, Anne hein?
Oui.
Vous êtes où, de quel côté? Vous êtes de quel côté?
Du côté de Caen.
De Caen? Très bien, très bien. Oui. Ça ne vous fait pas une trop grande différence entre le sud et la Normandie, là?
La mer me manque un peu, disons, mais c'est comme ça. Hein. Mmh. Mais il y a d'autres choses. Hein. J'ai les balades en montagne, il y a les balades au bord des lacs, c'est beau, là, la Normandie.
Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
Et puis, mon frère, il est là depuis 40 ans, il a fait ses études, il est infirmier. Moi, je travaille au centre de rééducation aussi, ici. J'avais l'habitude de Bagnoles de l'Orne, tout ça. C'est une belle région, la Normandie, mais c'est vrai que le soleil nous manque, des fois.
Ah, c'est pas pareil que le sud, c'est pas pareil que le sud.
Mais c'est trop chaud dans le sud.
Hein. Oui,
c'est
aride, trop chaud.
C'est chaud, c'est insupportable, ça.
Les choses se sont plutôt stabilisées. Se sont stabilisées depuis un moment.
Ah, disons que les choses ne se sont pas stabilisées. Oui, ça s'est stabilisé quelque part, mais les choses continuent. Toutes les choses sont pareilles. J'attends que je suis en train de faire toute seule mon procès, le remettre sur papier, pour remettre aux dossiers de surendettement, pour voir si on efface la dette. Mais avec toutes les procédures que j'ai eues avec l'avocat, il n'a rien fait, l'avocat. Pourtant, il a un dossier très intéressant. Et le chef de police me disait, vous avez tout pour gagner ce procès. Il y a eu trop de méchanceté, trop de choses. Et je pense que comme j'avais l'aide juridictionnelle, je pense que ça ne l'intéressait plus. Mmh. Parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, je laisse l'affaire. Et il y a 2 ou 3 jours avec le confinement, je n'ai pas pu avoir un autre avocat. Et moi, comme je suis chrétienne, j'ai dit, bon, si le dossier passe, le surendettement, c'est effacé, je pardonne, je laisse tomber ça. Et j'ai des amis qui m'ont dit, non, tu ne laisses pas tomber, tu continues à te battre pour...
Ah, mais moi, je suis d'accord avec vos amis, parce que tout ce qui s'est passé là-bas, il ne faut pas laisser ça là.
Voilà, il m'a dit le policier, il m'a dit, on ne laisse pas des gens comme ça dans la nature, en plus qu'elle travaille au tribunal, la fille.
Non, parce qu'ils vont recommencer avec d'autres. Vous voyez
exactement
ce que je veux dire?
Donc
vous ne pouvez pas laisser ça là.
Oui. Alors ce qui fait, j'ai appelé notre avocat. L'avocat m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment se fait-il qu'il a laissé tomber votre affaire? Elle m'a dit, je ne suis pas contente du tout. Je vais appeler tout de suite le bâtonnier, je vais l'appeler lui, et vous deviez écrire au bâtonnier pour dire, pour faire un procès. J'ai dit, non, je ne vais pas porter plainte. Elle m'a dit, oui, il faut pas que les avocats fassent ça. Il n'avait pas le droit de vous faire ça. Et j'ai dit, je suis dans la nature. Il devait m'aider à monter le dossier de surendettement et faire... comme une synthèse sur tout mettre sur papier. J'étais obligée de faire sur 7 pages toute seule tout le vécu. Ils m'ont demandé tout le vécu que j'ai eu à Saint-Mandrier, comment c'est arrivé, pourquoi la cause de cette dette de 6 000 euros. Et quand on réfléchit bien, j'ai peut-être 300 euros, parce qu'en fait j'ai déclaré l'appartement insalubre à la CAF. Ils ont bloqué la CAF sur la propriétaire. Après, les autres loyers, c'est des loyers qui sont restés vides et vacants, qu'elle a demandé à faire payer. Le parking, c'est pareil. J'ai pas pu louer ce parking qu'ils m'ont attribué lors de l'état des lieux. Et c'est des frais répétitifs de d'huissier et d'avocat qu'elle me demande, qui est monté à 6 000 euros. Au lieu de faire des travaux de l'appartement parce que tout à l'égout était bouché, les selles remontaient dans la salle de bain, il n'y avait pas de VMC. Au lieu de faire des travaux dans son appartement et louer, et puis mettre de l'ordre avec ses locataires, elle a préféré prendre l'argent pour aller voir des huissiers, des avocats, pour faire du mal.
Oui, mais bon, en tout cas, je veux dire, Anne, ne vous inquiétez pas trop là-dessus. Ce qui serait quand même bien, le dossier, vous l'avez, avec vous, oui. Toutes les pièces, vous les avez. Ça vaut quand même le coup que vous montriez ça à votre frère. En tout cas, peut-être reprendre oui. Ça devrait passer au tribunal quand tout ça, vous le savez ou pas? Vous avez une date?
Vous savez, ce qui s'est passé, c'est que mon avocat, mais il est culotté, ça s'est présenté déjà au parquet.
Et il n'est pas allé.
Ah oui, non. Il a été. C'est lui, le policier encore qui m'a dit est-ce qu'il a été au parquet? Et quand je l'ai appelé, j'ai dit à monsieur tel qui vous demande oui, mais j'y vais demain. Et quand il est revenu, il m'a appelé, il m'a dit oui, votre affaire est au parquet. Et il y a même eu une plainte contre ces gens-là déjà. Je suis bien content qu'il m'a dit. Et après, j'ai eu le commissaire de police de la Seine-sur-Mer qui m'appelle, qui me dit qu'ils ont enlevé leur plainte et ils me demandent d'enlever ma plainte. Alors, ils avaient fait je ne sais pas quoi pour laisser une plainte contre moi, mais moi, j'ai eu des ITT et tout.
Bon,
et
écoutez, en tout cas,
ils voulaient que j'enlève la plainte.
Vous n'enlevez aucune plainte, vous laissez faire les choses et puis vous me tenez au courant surtout de la suite des événements, d'accord?
Hein, d'accord, Olivier.
Je vous souhaite une bonne soirée et puis vous n'hésitez pas à me rappeler pour me tenir au courant de tout ça, d'accord?
D'accord, il n'y a pas de problème.
Je vous embrasse, Anne.
Merci beaucoup et puis je vous souhaite bonne fin de soirée.
Moi
bon
aussi.
Courage.
Au revoir, Anne.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.